fait bienvenue à la moustache à Placide, l'épisode 4, la fois où est-ce qu'on a parlé à un généalogiste. La moustache à Placide, c'est le podcast du Centre d'études acadiennes Anselme Chiasson qui prend son inspiration de la belle moustache de l'homme qui était le premier à nous léguer son fonds au Centre d'études acadiennes. Ce podcast ici est en collaboration avec le département de musique de l'Université de Moncton. Aujourd'hui, on est pas mal choyé d'avoir parmi nous, d'abord, il y a Robert Richard qui est avec nous autres à l'appareil, puis aussi il y a M. Stephen White, le généalogiste du centre. Ça fait quand même, 43-44 ans que tu es à l'emploi du centre d'études?
Oh, c'est un 42.
Ah, c'est juste 42, oh, excuse-moi, ouf, je
t'ai donné. 42 l'année dernière.
OK.
43.
OK.
43
ans, wow.
43 ans, il y a une minute là, je vais essayer de me rappeler de quelles années que j'ai perdu là.
Aïe, aïe.
J'ai quand même une moustache.
Oui, avec une moustache 43 ans passé.
Ceci, c'est la moustache Steve, là.
Ah, la moustache à Steve aujourd'hui. Oui. À Steve aujourd'hui, OK. Mm. Ben, on pourra changer le nom, on va garder ça, on va voir ce qu'on va changer le titre. Ça fait... aujourd'hui, on voulait juste s'entretenir puis voir, jaser un peu de... comment est-ce que tu as abouti au Centre d'études acadiennes? Fait d'abord, peux-tu nous parler un petit peu de où tu as grandi puis où est-ce que tu as commencé à apprécier la généalogie acadienne?
Ben, moi, j'étais toujours intéressé aux relations familiales, là, t'sais, dans la manière que le monde était apparenté ou t'sais, des liens entre des gens. Là. Puis... je suis né au Massachusetts, j'étais élevé là-bas parce que mes arrière-grands-parents, comme bien d'autres Acadiens des provinces maritimes, ont migré aux États-Unis dans le 19e siècle. Là.
OK.
Mais dans ma famille, là, mon arrière-grand-père avait un frère, un prêtre, le père Guillaume Marin Leblanc, là, qui était intéressé à la généalogie. Puis dans son temps, il était connu comme généalogiste. Au moins au Cap-Breton. Puis, il nous a laissé un document qui traitait de notre branche de la famille Leblanc.
OK.
Puis, lorsque j'étais au collège, là, je commençais à m'intéresser sérieusement là, à la recherche généalogique. Là. Puis, avec le temps, je commençais à faire des voyages de recherche au Cap-Breton. Puis... j'ai rencontré Monseigneur Alfred Boudreau, là-bas, là, ancien curé de Petite-Gras. Puis il m'a conseillé de me mettre en contact avec l'Université de Moncton. Parce que lui, il m'a dit qu'il y avait des archives ici, là, puis que dans les archives ici, il y avait même des documents qui traitaient de ma famille. Là.
On parle de quelle année?
Ça, c'était dans vers la fin des années 60.
Ah oui.
1960.
Oui.
Puis, j'ai fait ma première visite ici, là, au Centre d'études.
Ah oui.
En septembre, en 1969.
Oh wow.
Alors, ça va faire 50 ans, oui. au mois de septembre, que j'ai, j'ai eu des contacts de... avec le Centre d'études acadiennes.
Un demi-siècle, oui.
Dans ce temps-là, il y avait une plus grande équipe ici qu'aujourd'hui, là, quand même.
La qualité est quand même là aujourd'hui.
on dirait provisoirement, là.
OK, OK.
Mais,
on va prendre ça.
Ce que je voulais dire, là, c'est que j'ai fait connaissance de... Ronald Leblanc, qui était le bibliothécaire,
oui.
Puis Père Anselme, qui était
oui.
archiviste dans ce temps-là, puis même Père Clément Cormier. Là. J'ai rencontré ces gens-là, puis on a discuté nos intérêts communs. Là. Puis j'ai même fait connaissance de Père Hector Hébert,
oui.
qui était le généalogiste ici, là.
Oh, il y avait un généalogiste ici avant toi aussi. Là.
Ah, ben oui, il y avait Père Hébert et généalogiste ici. Là, puis un peu plus tard, on a embauché aussi Père Patrice Galland.
Oui, j'allais pas dire, sans qu'il y avait un galon, oui.
Il y avait ces deux prêtres. Là, puis, Père Hector était chargé de faire une nouvelle reconstitution des familles acadiennes à partir des documents. Parce que Père Clément, puis Père Anselme, puis les autres ont trouvé que les informations qui circulaient là, pour la généalogie acadienne étaient pas bourrées de fautes, là, mais quand même, il y avait pas mal d'erreurs là, parce que il y avait très peu de contrôle par des généalogistes sur les sources d'informations. Là.
Oh oui.
C'était pas scientifique, là.
Puis oui, oui.
On voulait relancer les recherches généalogiques sur un plan scientifique, là. Puis Père Hector s'occupait de faire un nouveau dépouillement des informations, des documents originaux, là, des registres paroissiaux qui existaient, là, puis des recensements et ainsi de suite, là. Puis... Père Hector Hébert était, comme moi, né au Massachusetts.
Ah oui.
Puis sa famille aussi était rendue là par tout à fait un différent chemin, là, parce que ce sont des Héberts qui se sont établis au Québec, dans la vallée de Richelieu. Là. Il y avait un des arrière-grands-pères, je pense, de Père Hector qui était un des patriotes de 1837.
Ah oui.
Oui. Qui était exilé en Australie, là, mais qui est revenu. Là,
ah oui.
En tout cas, là, dans mon cas, moi, là, je visitais le centre d'études dans les étés, là, durant mes vacances. Là. J'étais toujours étudiant dans ce temps-là. Puis, finalement, moi, j'ai appris qu'il y avait une collection des notes ici là, qui avait été attribuée à mon arrière-grand-oncle, Père Guillaume Marin Leblanc.
Oui, oui.
Et malheureusement, quelqu'un avait mis ces notes-là dans un désordre, là, puis qui d'après Placide Godette, dans une lettre qu'il avait écrite... à l'archiviste du Canada, là, il disait que les notes étaient dans un état déplorable. Là, puis, pour ça, là, Père Patrice Galland avait jugé la collection inutile parce que ça ne faisait pas de sens. Là, alors, Père Anselme puis Ronald Leblanc ont décidé de me passer la collection. Au cas où que j'ai pu profiter des informations dedans, là. Ça c'était en 72.
Okay.
Puis, en effet, il y avait dans la boîte, c'était une boîte de carton, là, tu sais, qui provenait d'une compagnie qui fabriquait l'encre.
Oui, oui.
Puis, il y avait dans la boîte 17 000 fiches.
Wow.
Ah, oh, juste ça.
Okay. Juste 17 000 fiches, ouais. Qui étaient tout en désordre, là. Puis moi, j'ai apporté ça au Massachusetts, puis j'ai fait le tri à partir des différentes sortes de papiers, différentes sortes d'écritures. C'était pas toute la même personne qui a fait le dépouillement des informations. C'était surtout une collection des extraits des actes de baptême, mariage et sépulture à partir des registres, là. Puis, ça m'a pris 3-4 mois avant de mettre l'ordre dans la collection.
Ça doit avoir pris plus qu'une fin de semaine.
Un peu plus que la fin de semaine. Là, oui.
Oui.
Puis, ensuite, il y avait question de d'autres documents. Là, puis, durant une de mes visites ici, là, j'ai impressionné Père Anselme, surtout un peu, là, parce que lui, il avait obtenu d'un prêtre du Cap-Breton des notes concernant des montants payés pour des messes commémoratives, là, puis des funérailles, puis des choses de même, là, dans les années 1860. Yep. Puis Père Anselme a eu ces petits carnets, là, puis c'était dans la collection ici, là, mais... il savait pas exactement qui les a fait là, puis qui.
C'est qu'il y a une utilité également. S'il y aurait une utilité pour ce type de document aussi?
Ah, oh, ben, il y a une utilité à tout document lorsqu'on oui. comprend ce qui est dedans. Là, oui, oui. Puis moi, j'avais regardé, puis moi, dans ce temps-là, je faisais des recherches dans les registres, là, puis je connaissais les écritures de beaucoup des prêtres. Là, puis j'ai dit tout de suite, là, tu sais, que, ah, le premier, c'est, ça vient de Père Julien Courteau, qui était curé de l'Ardoise, mais avec décès à la rivière Bourgeois. Puis l'autre était dans l'écriture de mon arrière-grand-oncle, Père Guillaume Marin Leblanc, qui était le premier curé résident à la rivière Bourgeois. Puis Père Sanson, qui a donné les carnets au Père Anselme, lui était curé de la rivière Bourgeois. Alors, c'était vraiment quelque chose de la paroisse de la rivière Bourgeois.
C'était un peu comme le premier CSA, un peu détective, d'avoir trouvé, d'avoir matché un peu les différentes sortes d'écriture.
Non, mais une fois qu'on comprenait que c'était des notes que les prêtres ont prises là, pour le fonctionnement de la paroisse de la rivière Bourgeois. Là,
on connaissait l'auteur. On connaissait maintenant l'auteur.
Oui, l'auteur, puis la source, là, puis le but, le document. Là. Puis un an, deux ans après ça, Père Patrice Galland était dans un accident de route. Là, puis il n'était plus capable de travailler ici. Là. Puis lui et Père Hector Hébert sont tous deux nés en 1908. Puis ils arrivaient à l'âge de retraite. Puis ils cherchaient une autre personne pour s'occuper de la généalogie ici. Là. Puis Père Anselme avait mentionné au Père Clarence d'Entremont au Massachusetts là, qu'ils aimeraient avoir le jeune avocat Stephen White là, venir ici là, pour faire la généalogie. Là. Puis, il pensait que c'était juste un rêve, là, d'après ce que Père Clarence m'a dit, de toute façon. Là. Mais Père d'Entremont m'a mentionné ça. Là. Puis, je lui ai dit que ah, ben, je serais peut-être intéressé là, si les conditions étaient bonnes pour mes recherches. Là. Puis, ça, c'était en 1974. Puis, Père Anselme a fait une offre officielle, de venir ici là, pour devenir généalogiste du Centre d'études acadienne. Bien sûr, dans ce temps-là, il fallait faire une démonstration pour le gouvernement qu'il n'y avait personne de ce côté-ci de la frontière qui était capable de prendre le poste. Là. Puis après ça, c'était il y avait des complications avec l'administration, parce qu'il y a toujours des complications.
La citoyenneté était américaine, hein, c'est ça?
Oui, c'est toujours américaine.
Toujours américaine.
Mais c'est juste, il y avait une politique là, que il fallait donner des postes aux habitants, aux résidents du Canada avant d'aller à l'extérieur du pays là, pour des personnes, là. Puis, j'ai commencé le 10 novembre en 1975.
Wow! Attends, temps plein régulier, là, c'est ça, là?
Oui.
Oui, hein?
Oui, oui.
So maintenant, plus tard cette année, ça fera 44 ans.
Oui, puis ça va faire 50 ans, comme on a mentionné, là, c'est la première visite que j'ai rendue. L'année dernière, c'était les 50 ans de Centre-Étude, puis c'était juste l'année suivante que je suis venu ici pour visiter, là, tu sais, puis on était, le centre était à l'étage, là.
C'est vrai.
À ce temps-là.
Bibliothèque en plein, ici, là. Oui.
Ça fait vraiment, vous devez être un des parmi les on dirait en anglais, longest tenured personnes à l'université, parmi les gens qui siègent à l'université depuis le plus longtemps, j'imagine. Mais avec 45 ans, c'est quand même.
Je suis rendu au point où, tu sais, si mon nom est mentionné, il se demande, là, est-ce qu'il vit toujours?
Oui.
Ben, des fois, c'est la question qu'on se pose.
On lui paye toujours pour son job, là?
Non, mais c'est souvent, les gens arrivent ici, puis on dit, ils demandent, « Oh, c'est dommage, j'aurais aimé voir M. Steven White. J'ai entendu lui dire qu'il était peut-être décédé. » Puis là, tout d'un coup, tu sors de ton bureau, puis là, les gens sont tous surpris là, que tu es encore là, là. C'est vraiment...
Surtout de la manière que je flotte sur l'air.
Oui, hein? Oui, oui. Mais je sais pas, Robert, si tu avais...
Ah, c'est sûr qu'il y a plein de questions, comme la passion qui t'a piqué là, pour changer de carrière, en fait, compte de jeune avocat gradué pour venir ici comme généalogiste. Il y a un travail d'enquête, je suis sûr, mais c'est vraiment une passion qui s'est développée, que tu avais déjà eu cette piqûre-là. Avec les premières visites, avec les documents qu'il y avait dans la famille.
Oh, oui, j'avais ça, c'est avant d'embarquer sur des recherches.
Là. Oui, oui.
C'est juste que je m'intéressais, là. Mm. Puis, en effet, lorsque j'étais jeune, là, tu sais, lorsque j'étais à l'école intermédiaire, là, je commençais à m'intéresser aux familles royales d'Europe.
Oui, oui. Mm.
Parce que j'ai pu faire des recherches sur les généalogies de ces familles dans les encyclopédies. Là. C'était quelque chose qui était accessible.
Eh oui, puis, une bibliothèque.
Puis, des fois, ça m'a vraiment surpris. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas des liens entre des rois puis des reines, puis tout ça. Là, tu sais, puis, à l'école secondaire, il y avait un de mes professeurs qui remarquait un jour que... le roi George V, là, puis le dernier des tsars, se ressemblaient. Là, puis je lui ai dit, là, ben, 7 ans, là, leur mère était sœur.
Mm. Ouais.
Puis il était impressionné que je savais ça. Là, mais c'est ce que c'est.
C'était en maternelle, ça, ou en première
c'était
année?
C'était à l'école secondaire.
OK. J'ai envie de dire. Mais vraiment... C'est facile à voir pourquoi que ça t'a mené à l'histoire acadienne puis à la généalogie acadienne, si tu veux.
Là. Puis lorsque j'étais à l'université, là, moi, j'ai fait une thèse de baccalauréat là, sur la déportation.
Ah oui? Mm. Ah, ça, je ne connaissais pas ça. Mm.
Oui. Non, bah, c'est dans la collection.
Ah oui? Non, vraiment? J'ignorais.
Je pense qu'il y a peut-être même 2 copies.
OK.
Oh, Robert, tu n'as plus d'excuses à ce que tu as lu
ça. Oui, c'est ça. Ça me donne un mandat. Oui.
Ben, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là-dessus. Je suis sûr que tu en aurais long et large à dire sur la généalogie, mais en tout cas, on apprécie le temps que tu as pris pour venir nous parler aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ce sera la fois où est-ce qu'on a changé notre podcast à la moustache à Steve.
Ben, on peut peut-être faire une alternation entre les moustaches.
Ouais, c'est vrai. Ça fait à l'appareil, je remercie Robert Richard qui est avec nous et M. Stevie White. Et moi, François Leblanc, ben, je vous dis au prochain épisode, à la prochaine. Salut. Merci.